France Inter, le 7-9.
Et de 11, un 11e tome pour Le chat du rabbin qui sort aujourd'hui, qui s'intitule La Bible pour les chats. Et Johan Sfar vient nous en parler. Bonjour Johan Sfar.
Bonjour.
Merci d'être au micro de France Inter ce matin. Écrivain, réalisateur, scénariste, mais également auteur de bandes dessinées à succès avec cette série qui se poursuit, que vous avez lancée en 2002, Le chat du rabbin. Le dernier tome est publié chez Dargaud. On retrouve avec grand plaisir ce dialogue entre le chat et son maître autour de la religion et la question précisément de l'interprétation des textes, puisque le chat est bien décidé à faire sa propre lecture de la Bible. Est-ce que c'était une manière de se moquer de ceux qui font dire ce qu'ils veulent en fait aux textes sacrés, ou au contraire de nous inciter à aller les lire pour nous faire notre propre idée ?
Bah oui, la Bible a été donnée à tout le monde, c'est un excellent bouquin, il se vend très bien. Et je me sens autorisé, à partir de 11 livres, en évitant le charlatanisme, mais de plonger dans le texte et d'interroger la notion de miracle. Voilà, oui, il me semble qu'on peut mettre le nez dans la Bible, on peut s'en emparer, on peut la commenter. En tout cas, le chat essaye, quitte à dire des bêtises. Mais j'essaie de changer le lieu du débat. J'essaie de changer le débat entre religieux et pas religieux. Mais plongeons dans ce livre, voyons s'il y a des choses intéressantes à en tirer.
Alors justement, il est question des miracles. Vous faites dire au chat... Je crois que la Bible est une apologie des miracles. Si on ne se met pas à la réécrire un peu mieux, vous allez perdre plein de clients. C'est le monde moderne maintenant. Les gens ne croient plus au feu du ciel et au cirque Bouglione. Vous êtes sûr? Vous croyez vraiment que le monde est rationnel à ce point?
La question, c'est on prie parce qu'on a peur de perdre un enfant, parce que quelqu'un va mourir ou quoi, parce qu'on attend un miracle. Et dans la Bible, il y en a plein. Dans la vraie vie, il y en a moins. Et alors, le chat a découvert un truc. Je veux pas spoiler, mais il a découvert que la plupart des rabbins ont le numéro de téléphone de Dieu caché quelque part. Donc il décide de passer le coup de fil. Déjà, c'est pas simple parce qu'il a pas le téléphone, il a des petites pattes. Et aux gens qui lui disent, mais c'est ridicule, Dieu va pas te répondre, il répond, mais toi, à prier derrière ton livre, t'as l'air de quoi? Donc voilà, il y a un petit sujet là-dessus.
Il y a un contraste terrible entre le chat qui ne cesse de s'agiter, il vient même jusqu'à Paris, d'ailleurs, pour son enquête, et puis le rabbin, qui lui passe quasiment tout l'album à dormir, ou à réfléchir. En tous les cas, il est passif. Est-ce que c'est dans la passivité, ou dans le repos, ou dans la quiétude, qu'on va trouver la vérité? Est-ce que c'est ça un peu le message?
Vous savez, mes rabbins disaient, on est les garagiste de la foi, c'est-à-dire on est là pour égorger les poulets, pour faire les circoncisions, et il nous reste, comme disait Emmanuel Kant, 20 minutes par an pour penser au sacré. Le chat, c'est l'inverse, il veut des vérités, il veut des réponses, et le rabbin répond beaucoup, je ne sais pas, ça j'aime bien.
C'est l'un des enseignements que vous faites, vous, de la lecture des textes, d'arriver à cette conclusion d'une certaine ignorance?
C'est plus vaste. J'ai commencé le chat après les attentats du 11 septembre et j'ai toujours refusé la guerre des civilisations et j'ai décidé de déplacer le débat et de dire on va réenchanter la mémoire maghrébine et on va se réapproprier le sacré pour en faire quelque chose de familial, pour en faire quelque chose qu'on peut partager. J'espère que ça fait marrer. Mais il y a derrière, j'ai un agenda. Comme la plupart des fauteurs de troubles, derrière le chat, j'ai un agenda.
Et là, vous aviez un agenda pour ce 11e tome. Précisément, vous l'avez débuté avec une idée très précise.
Oui, oui, oui.
Il y a un contexte aussi ou à une réflexion personnelle?
Il y a deux formes de charlatanisme qui m'agacent. Le premier, c'est le fanatisme. Le deuxième, c'est l'adoucissement de la Bible. C'est-à-dire, on va venir à France Inter, on va vous expliquer la Bible en vous disant c'est de centre-gauche, c'est de la psychanalyse, c'est sympa. Non, la Bible, c'est rétif à l'analyse, c'est compliqué, c'est comme des pelures d'oignon. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on a compris, il y a un passage qui dit l'inverse. Et c'est cette étude rugueuse qui m'intéresse. Moi, je me méfie des religieux qui disent j'ai compris. Moi, j'adore ne rien avoir compris à la Bible et ça me donne envie d'y retourner.
C'est aussi l'éloge de la complexité, donc de la difficulté du texte, qu'il ne faut pas cacher.
Oui, à chaque fois que le chat dit « j'ai compris », le rabbin s'endort en disant « écoute, c'est bien, t'as étudié
». Et il rigole au passage. C'est aussi ce qui fait du bien dans ce tome et dans les précédents également, Johan Sfar, c'est que vous parlez de religion librement. C'est pas un dogme, il y a beaucoup de distance, de second degré, alors qu'on a parfois tendance à faire de ces livres sacrés des livres intouchables.
Moi, je deviens vieux, enfin, j'accepte mon incohérence. Avant, j'essayais d'être logique, maintenant j'accepte de pas être croyant, de faire des prières toute la journée, d'être très juif et de détester la religion. Et je me débrouille avec ça et je suis pas plus malin que mes lecteurs, donc je leur donne un terrain de réflexion. Dès que quelqu'un qui a fait le catéchisme ou qui a fait l'école coranique me dit « c'est exactement pareil que moi », je me dis « on est tous aussi bêtes et ça va bien se passer ».
Vous pensez que c'est un sujet aujourd'hui, la religion, qui décourage certains auteurs qui se disent attention, c'est casse-gueule, c'est glissant?
Oui, je crois surtout qu'on se fait tous imposer des débats. Alors on est pour ou contre telle chose, moi j'ai envie de choisir mes débats. J'ai pas envie de me laisser entraîner dans des querelles identitaires qui me regardent absolument pas. En revanche, j'ai envie de raconter mon histoire à moi, avec la manière dont, pour moi le débat c'est est-ce qu'il y a des miracles ou est-ce qu'il y en a pas. C'est pas est-ce qu'on est de telle ethnie ou de tel truc.
Avec 20 ans de moins, vous nous expliquez, vous nous rafraîchissez la mémoire, vous nous dites que vous êtes lancé dans le chat du rabbin après le 11 septembre 2001. Avec 20 ans de moins, vous iriez encore aujourd'hui sur ce terrain-là?
Oui, avec tous les échecs qu'on a subis, c'est-à-dire l'avenir est ce qu'on veut qu'il devienne. Quand on nous a annoncé le choc des civilisations après le 11 septembre, c'est devenu ce qu'on a voulu, c'est-à-dire on l'a eu ce choc des civilisations. Peut-être que maintenant on peut essayer d'être moins bête que ça.
On peut essayer.
Moi, je vois beaucoup de bonne volonté. Je vais pas employer cette horrible expression maurassienne de pays réel. Mais dans le vrai monde, je suis prof aux Beaux-Arts depuis 5 ans. Je croise des gamins de toutes origines et je les trouve tous beaucoup, beaucoup moins bêtes que leurs aînés. Il y a un syncrétisme et il y a un pragmatisme qui me rassure beaucoup au quotidien.
J'entends beaucoup d'optimisme dans ce que vous nous dites ce matin, Johann Sfar. Ça n'était pas forcément le cas lorsque vous avez publié votre roman, Le Dernier Juif d'Europe, en février 2020. Vous disiez à chaque fois que les Juifs dénoncent l'antisémitisme, il y a un regain d'antisémitisme et on sentait une sorte de lassitude, de fatalité dans vos propos à l'époque.
Ça, je le pense toujours. Je pense que l'antisémitisme est un élément fédérateur. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont en commun et ils détestent qu'on le leur dise. C'est pour ça que j'avais inventé ce slogan, sale juif, nous ne sommes pas antisémites. Ça m'a valu d'être banni d'Instagram quelques jours pour incitation à l'aide.
Encore les contradictions.
Non, je pense que l'antisémitisme, c'est un lieu commun. Donc effectivement, pas par la réflexion, par le rire, par l'humour, on peut sans doute en sortir, mais enfin, croire qu'on a réglé ce problème-là. Et puis les racismes ne se ressemblent pas. Je pense que les haines ont chacune leur petite spécificité, comme les plats culinaires.
Vous ouvrez ce tome, Johann Sfar, avec un court texte dans lequel vous rendez hommage aux rabbins qui vous ont fait découvrir la Torah, un excellent bouquin. Dites-vous, je vous cite, 11 volumes que je fais de l'argent sur le dos des rabbins sans jamais les remercier. Donc vous les remerciez. Et au-delà des rabbins, vous dédiez l'album à ceux qui enseignent le sacré aux gamins, quelle que soit la religion d'ailleurs, sans semer la haine et le repli. On a besoin d'éducation aux religions aujourd'hui.
Oui, moi je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade, donc moitié d'Algérie, moitié d'Ukraine. Et les rabbins séfarades avaient souvent une espèce de complexe face au judaïsme chassidique parce qu'ils pensaient qu'ils étaient, je sais pas, moins intègres, moins ceci. Moi, j'adore le judaïsme séfarade parce qu'il est modéré, il est cosmopolite et il est pragmatique. Et il y a une manière très pragmatique et très humble de répandre le judaïsme séfarade. Par exemple, ils ont un bouquin qui s'appelle Le Pirkei Avot, le traité des pères. Ils l'ouvrent au hasard, ils lisent un passage et ils le commentent. Donc cette espèce de pragmatisme, moi, j'y suis très attaché. J'ai eu des super rabbins à Nice quand j'étais petit, c'est vrai.
Et donc vous encouragez plutôt les jeunes, leurs parents, à l'éducation,
écoutez,
à la religion.
Depuis que je fais le chat du rabbin, j'ai rencontré plein d'imams, plein d'évêques, plein de rabbins. J'ai pas vu un seul intégriste. En général, les intégristes, ce sont les gens qui méconnaissent le fait religieux, donc ils en font un outil de combat. L'étude de la religion devrait inciter à l'humilité et la fraternité. Moi, j'ai toujours vu les religieux comme des éducateurs sociaux avant tout, parce que le numéro de téléphone de Dieu, en réalité, personne l'a. Et voilà. Donc pour moi, un religieux, c'est aussi important qu'un prof de sport. Ça fait partie de l'hygiène.
Alors, le chat du rabbin, le 11e tome, sort aujourd'hui, la Bible pour les chats, et puisque vous avez toujours mis le fer au feu, Johann Sfar, vous êtes aussi avec Mathieu Sapin, le coupable du ministère secret, deuxième tome d'une autre BD. Alors là, on est sur un terrain plus politique, ça sort aussi en cette fin du mois de novembre. Je vous retrace l'histoire à grands traits. François Hollande et Nicolas Sarkozy, après leur mandat, sont devenus des super-héros qui luttent contre les forces du mal qui menacent la France. L'après-Élysée. Après Élysée, ça vous intéresse davantage que le pendant, j'ai l'impression.
On va être tous les jours dans l'IB jusqu'aux élections et on va être beaucoup plus fake que les fake news.
Donc vous allez raconter plein de bêtises dans la bouche de quoi? Des candidats?
Ah, il y a Alexandre Benalla qui arrive demain, figurez-vous, qui bosse pour les services secrets. Chut.
Mais pour revenir à cette BD, Sarkozy et Hollande ensemble, ça
Mathieu Sapin. Non, le héros, c'est surtout Mathieu Sapin qui connaît toutes les célébrités. Donc les anciens présidents...
Qui a suivi François Hollande.
Bien sûr, et les anciens présidents ne foutent pas rien, ils travaillent pour les services secrets. Et ils nous sauvent tous les jours des reptiliens, des extraterrestres, de la 5G, de tout ce qu'on peut imaginer.
Voilà. C'est un thème qui était aussi le thème du film Président. J'ai l'impression que c'est un fantasme de scénariste de se dire François Hollande et Nicolas Sarkozy sont anciens présidents de la République, donc ils passent un peu de temps ensemble, ou voire beaucoup.
Mais parce que dès qu'ils sont plus présidents, on les aime bien.
C'est ça, donc ça fait des personnages plus sympas.
Oui, puis, puis on est un peu réactionnaire, on aime bien le président d'avant.
Vous avez parlé plusieurs fois du numéro de téléphone de Dieu qu'on trouve dans le chat du rabbin, vous nous le donnez ?
Alors, après l'émission, il est consultable si...
Bon, je suis obligé de spoiler un petit peu, c'est Élysée 613. Dieu habite à l'Élysée, Johannes Farr, c'est un clin d'œil.
Alors, Élysée, c'est le fils du prophète Élie, dans la Bible, figurez-vous. Et comme il est beaucoup question du prophète Élie dans cette histoire, voilà.
Bon, moi, j'y ai vu une référence à l'Élysée, mais on met un peu, chacun met un peu de soi-même en lisant une BD, c'est sans doute la leçon. Merci à vous, Johannes Farr, d'être venu nous parler ce matin sur France Inter du ministère secret, donc cette BD qui sort aujourd'hui avec Mathieu Sapin. Et puis, Le chat du rabbin, le 11e tome, c'est La Bible pour les chats. Merci à vous.
Merci.
France Inter.